Avis à tous les parents complètement nazes en fin de journée qui croient s'en tirer en sonnant la retraite au lit tout le monde et doivent céder à la ribambelle de Braillard qui leur répond « On veut une histoire pour s'endormir, viens nous raconter une histoire !» Avis donc à vous, malheureux parents, qui en réprimant votre fatigue, vous farcissez pour la 72 000e fois l'histoire de cette cruche de Belle au bois dormant avec son bel âtre. Apprenez donc, chers amis, pourquoi ça ne marche pas, l'histoire du soir? Pourquoi ça ne marchera jamais? C'est que les contes n'ont absolument pas pour but d'endormir les enfants, mais de les éveiller. C'est dans les Buissonnières, en direct du studio d'Onda Païs à Bédarieux.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am the voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. Et oui, en ces temps reculés où on n'avait pas sur Internet de tutoriel comment réparer sa machine à laver, comment rompre sans casse avec votre conjoint, comment avoir le beurre et l'argent du beurre, etc. En ces temps reculés sans tuto ni télé, les contes servaient à apprendre la vie aux grands comme aux petits, car la veillée rassemblait autour du feu toutes les générations. Ainsi, le petit poussé apprenait cette leçon essentielle. Quand on est pauvre, on ne doit sa survie qu'à son intelligence. Et le petit chaperon rouge, me direz-vous? Eh bien, c'est évident, le petit chaperon rouge apprend aux filles à se méfier du loup dans la forêt. Raté. C'est pas ça du tout, nous explique Lucille Nova dans Les Grandes Dents, excellent et néanmoins désopilant ouvrage paru aux éditions La Découverte, ainsi que le confirment les enquêtes des sociologues et de la police. Et contrairement aux menteries de Bardella, Le Pen et consorts, le violeur est rarement l'étranger en turbané qui rôde dans le parking, mais à 86%. Un Français de souche est bien plus souvent le tonton jovial qui joue aux boules avec papa, voire le papa lui-même, qu'un inconnu. Le petit chaperon rouge ne dit rien d'autre et Lucille Nova le prouve dans Les Grandes Dents, enquête sur un petit malentendu. Et si l'on avait fait fausse route dans l'interprétation du petit chaperon rouge? De cette histoire familière, on a surtout retenu la mise en garde contre des prédateurs inconnus, intégré l'idée que le danger rôdait dehors. Et pourtant, il était une fois, sous une flamboyante capuche rouge, un petit malentendu. Perrault et les frères Grimm s'étaient donné de la peine. Ils avaient semé des indices comme d'autres sèment les cailloux, mais en vain. Quelque chose en nous résistait, à nos corps défendants. Affabulation collective, le déni mis tout à l'envers, on verrouilla d'un même geste et le contresens et la porte de nos maisons. Rembobinons. Qu'est-ce que c'est que cette grand-mère folle de sa petite fille? Pourquoi l'enfant donne-t-elle si prestement son adresse au loup? Aurait-elle d'excellentes raisons de traîner les pieds en chemin? Est-il bien vrai que la forêt est un danger et la maison un lieu sûr? Et surtout, qui se cache sous la couverture? Un loup grimé en mer grand, vraiment? L'enquête est rouverte. Et voilà donc ce que j'ai raconté dans l'atelier d'écriture du jeudi à Bédarieux. Après avoir exposé les termes du procès dont je viens de vous rappeler les grandes lignes, j'ai demandé aux participantes quels contes auraient pu les secourir quand ils et elles étaient enfants dans l'enfer douillé de la famille. Et ils l'ont inventé, ce conte qui n'existait pas, mais les aurait tellement aidés. Ils l'ont écrit, retravaillé, et sont venus dans le studio d'Onda Païs, que nous remercions de nous accueillir. Ils sont venus vous le lire, ce conte. Ici présent, Brigitte.
Bonjour.
Sophie.
Bonjour.
Nicole.
Bonjour Virginie.
Et Vincent.
Et bonjour. Et donc moi je vais vous parler d'un chien, d'un labrador un peu spécial. C'est l'histoire d'une famille de jeunes labradors qui vivaient dans une maison en face de la mer. Quand ils ne dormaient pas à l'abri, ils restaient toute la journée sur la plage de sable fin à s'amuser avec tous les passants. Et évidemment, ils faisaient des trucs de chien. Courir, ramener un bâton, dormir. Enfin tous, sauf un. Lui était plus maigrichon que ses frères et sœurs. Il avait le pelage gris pâle et la queue en tire-bouchon. Il essayait de faire comme ses semblables, mais ça ne marchait pas. Toujours le dernier en course, infoutu d'attraper le moindre frisbee, continuellement battu au jeu de la bagarre. Et puis surtout, incapable d'aboyer, de gémir, de grogner. Silencieux comme un vampire sous un soleil d'été. Nous pouvant se lier avec les siens, il décida alors de suivre les humains qui étaient de passage sur la plage. Et dès qu'il en voyait un tout seul ou en groupe, il leur tournait autour, sans commander de nourriture. Bon, il ne refusait pas le quignon de pain tombé négligemment, mais jamais on ne le voyait insister pour obtenir plus. Non, c'était autre chose qui l'intéressait. C'est comme s'il les écoutait. Une hérésie aux yeux de ses frères et sœurs, pour qui les humains restent avant tout des distributeurs de petits bonheurs. Gratouille sur le bas du dos, des biscuits, pourquoi pas un peu de jambon quand on a la chance de tomber sur un pique-nique familial. Non mais vraiment celui-là, il faudra toujours qu'il fasse son intéressant, se disaient ses congénères entre eux. Défiance donc, pour finir très vite en indifférence. Ils avaient beau vivre et dormir au même endroit, le frère muet ne faisait, pour ainsi dire, plus partie de la meute. Ils ne remarquèrent même pas que le mouton noir, qui n'en était pas un, s'était fixé sur un humain. C'était un très vieux modèle d'humain. Le genre qui vit recourbé sur lui-même avec une canne à la main. Sauf que celui-ci parlait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Toute la journée, il parlait. Du temps qui passe, de la nature, des fonds marins, des grands personnages du passé, de philosophie. Très vite, les labradors s'en sont désintéressés. Non pas qu'ils ne comprenaient rien, les chiens comme les autres animaux comprennent toutes les langues. Mais pour un labrador qui se respecte, le frisbee et l'os à moelle demeurent les piliers sacrés d'une existence canine heureuse. Alors bon, la Grèce antique, hein. Seul le frère muet restait à l'écouter en hochant de la tête. Et un jour, alors que les labradors sollicitaient encore tout le monde pour jouer avec eux, un passant qui n'aimait pas les chiens appela les policiers. « Ces bêtes sauvages ne cessent de courir partout. Elles vont finir par blesser un enfant », déclara-t-il, bien qu'il n'avait jamais blessé personne auparavant. Les policiers arrivèrent rapidement. Ils avaient des filets et des bâtons spéciaux. Les labradors, eux, pensaient que c'était un nouveau jeu. Mais leur excitation ne fit qu'agacer encore plus les humains en uniforme. Ils décidèrent alors de les emmener de force à la fourrière. D'abord l'aîné, puis les deux filles, puis un autre garçon. De loin, le labrador muet regarda la scène avec le cœur serré. Terrifié, il voulut d'abord aboyer pour attirer l'attention. Mais seul un frêle miaulement s'échappa de sa gorge. Car oui, ce labrador était resté muet toute sa vie, car il ne savait que miauler, comme un chat de gouttière. Honteux, mais malgré tout déterminé, il se mit alors à dessiner sur le sable des lettres, qui devinrent ensuite des mots, puis des phrases, à différents endroits de la plage. Dès qu'il vit un groupe s'approcher des inscriptions, le labrador gris blafard courait autour des humains pour faire comprendre que c'était bien lui qui avait écrit « Aidez-nous, ils sont gentils » ou encore « Ne les emmenez pas, ce sont mes frères et sœurs ». Surpris et intrigués, ils allèrent voir la police. Par chance, ces derniers n'avaient pas encore réussi à attraper les derniers labradors. « Vous êtes sûr que ces chiens sont sauvages et dangereux ?» demanda une dame. « Il y a des écriteaux sur le sable qui disent le contraire. Ça va vous sembler fou, mais le labrador gris que vous voyez au loin vient de les écrire devant nous avec ses coussinets. Je crois qu'on est loin d'un comportement sauvage. » Déconcerté par ce témoignage et la santé mentale de cette dame, un des policiers s'approcha doucement du labrador gris, avec l'idée en sous-main de l'attraper. Voyant le coup venir, l'animal écrivait en toute vitesse sur le sable « Je parlerai, mais n'emmenez pas mes frères et sœurs. » Les policiers, ébranlés par la situation, posèrent d'autres questions au chien grisard. Il miaula doucement avant d'écrire « Ils ne sont pas méchants. Je peux leur parler. » le temps d'intégrer que c'était bien un labrador à la couleur improbable qui écrivait dans un français parfait sur le sable en miaulant, les policiers décidèrent de libérer toute la meute. Heureux et bouleversés à la fois, les frères et sœurs du chien muet se précipitèrent vers leur sauveur. « Mais comment as-tu fait ça ?» demanda l'un d'eux. « Depuis quand sais-tu écrire ?» Le jeune labrador gris hésita, puis se mit à leur parler en miaulant doucement. « Depuis notre naissance, vous étiez tous plus rapides, plus forts, plus habiles que moi. Et en plus, j'ai cette voix de chat, notre ennemi mortel. Je ne voulais pas que vous me rejetiez, alors j'ai préféré me taire et écouter les humains. Et puis un jour, je suis tombé sur ce vieux modèle d'humain. « Et qu'est-ce qu'il te disait ?» demandèrent-ils tous en hochant de la tête du même côté. Il parlait de grandes idées, de personnages du passé. Un jour, il a dessiné des lettres et des mots sur le sable pour m'expliquer. J'étais fasciné. Si j'apprenais à faire comme lui, je pourrais parler avec lui et non plus seulement écouter. « Et tu as réussi tout de suite ?» demandèrent-ils tous en cœur. « Non, je ratais tout le temps. Parfois, ça m'énervait tellement que je creusais des trous de rage sur mes lettres ratées. J'ai abandonné plusieurs fois. Mais le vieux modèle m'a parlé d'un autre humain qui était encore plus vieux que lui. Socrate, il s'appelait. Eh bien, ce Socrate a dit un jour, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Les labradors penchèrent tous la tête de l'autre côté. Mais ça veut dire quoi ? Le chien, qui n'était désormais plus muet, hocha la tête et miaula encore doucement. Ça veut dire qu'on réussit à faire ce que l'on veut seulement quand on le répète encore et encore. Ses frères et sœurs se regardèrent impressionnés. On croyait que tu ne faisais que rêver, que tu te croyais supérieur, mais en fait tu apprenais. Tu nous as sauvés grâce à ça, murmura l'aîné Penaud. Depuis ce jour, plus personne ne se moquait du labrador gris. On l'appelait maintenant le labrador argenté ou Silver Lab. Et grâce à lui, toute la meute pouvait maintenant parler avec les humains. Quant à Silver Lab, il continuait à écrire dans le sable pour raconter son histoire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre.
Je suis Nicole, je vais vous raconter l'histoire des quatre poulettes. Une histoire que j'aurais bien aimé entendre quand j'étais petite. Il était une fois un coq et une poule qui vivaient dans un enclos. La poule a pondu quatre œufs très jolis. Elle les a couvés et quatre petits poussins jaunes ont éclos. Papa coq était tout content. « Quelle jolie famille nous ferons avec quatre petits coqs !» Et je leur apprendrai à crier « Cocorico, c'est le matin !»« Cocorico, c'est nous les plus beaux !» Les poussins ont grandi un peu. Ce n'étaient pas des coqs, c'était des poulettes. « Qu'est-ce que je vais en faire ?» a dit papa coq. Les poulettes, elles, s'amusaient, couraient partout, pépiaient comme des moineaux. Ce qui rendait nerveux papa coq. Et quand il était bien énervé, brusquement, il venait en courant et sautait sur une poulette. Elle avait très, 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 très peur. Les autres aussi, bien sûr. Alors, elle n'osait plus jouer. Et pour un moment, il n'y avait plus d'autre bruit dans l'enclos que les « Cocorico, je suis le plus beau !» Dans l'enclos, il y avait un petit coin près du bois où papa coq ne les voyait pas très bien. Les poulettes y allaient souvent pour jouer. Là, un petit renard les observait. C'était un petit renard qui était tout seul quand son papa partait chercher de la nourriture. Sa maman et ses frères avaient été tués par des chasseurs. Un jour, il leur a demandé « Est-ce que je peux venir jouer avec vous ?» « Je peux faire un petit trou sous le grillage et je viens. »« Ce n'est pas possible, » ont dit les poulettes. « On nous a dit que les renards ne pouvaient pas être l'ami des poulettes. »« Alors, est-ce que je peux vous regarder jouer ?»« Comme ça, je me sens moins seule quand mon papa est parti. »« Bien sûr, » ont dit les poulettes, « tu peux rester là. » Le temps a passé, les poulettes grandissaient, forcissaient, le coq faisait ses cocoricos tout au long du jour et les terrorisait toujours quand ça lui prenait. Le petit renard, lui, venait moins souvent les voir. Il apprenait à chasser avec son papa. Un jour, que le coq se précipitait sur elle, les poulettes d'un seul coup se sont envolées. Elles ont passé par-dessus le grillage et se sont perchées sur un arbre du bois. Le coq, lui, il était trop lourd pour les suivre. Dans le bois, le petit renard se promenait. Il a vu les poulettes dans l'arbre. Il leur a demandé, tout surpris, « Qu'est-ce que vous faites là-haut? Allez vite vous mettre à l'abri dans votre enclos. Nous ne voulons pas retourner dans l'enclos. Le coq nous fait trop peur. Quoi ?» s'exclame le renard. Ce coq qui passe ses jours à crier « Cocorico, je suis le plus beau !» Oui, celui-là. « Ah !» dit le renard en colère. « Il faut que ça s'arrête !» Aussitôt, il se précipite vers l'enclos, creuse sous le grillage, et cric et croque, il croque le coq.
Sophie. Le titre de mon conte, Confiance. À l'orée d'un bois, un jeune homme, assis au pied d'un arbre, mange tranquillement un morceau de fromage. À ses pieds, une hache, une scie et une corde. Son nom est Eriem. Alors que le soleil se couche à l'horizon, un doux chant se fait entendre. Le jeune homme lève la tête et cherche du regard l'oiseau. Soudain, un froissement étrange. D'instinct, Eriem se lève le couteau à la main. « Qui va là ?» En face de lui, un gros rocher. Le feuillage autour remue à la lueur de la lune. Une maigre silhouette émerge. Elle s'avance, le dos courbé. « Ne me fais pas de mal, je ne fais que passer. » Eriem range son couteau à la vue du vieillard qui se tient devant lui. « N'aie crainte, tu peux passer. » Il sort une grosse pomme de son sac. « Tiens, mon brave. » Les traits du vieil homme s'assouplissent. « Oh, merci, merci de ta bonté, moi qui n'ai rien mangé depuis 3 jours. » Il enfouit la main dans ses guenilles et en sort une fiole qu'il tend au jeune homme. « Pour te remercier, voici une potion magique. Quelques gouttes sur ta langue suffisent pour te donner 100 fois plus de force que tu n'en as déjà. La fiole ne se vide jamais. Mais prends garde, si tu mangeais des fraises après avoir pris de la potion, ta douleur serait terrible. Tu ne serais plus bon à rien. » Eriem regarde fasciné l'objet qu'il tient dans la paume de sa main. Il lève la tête, mais le vieil homme a disparu. Dès le lendemain, Eriem goûte au breuvage magique et s'exerce à la coupe du bois. Au premier mouvement de scie, la branche cède. Au premier coup de hache, l'arbre tombe. Il débite l'arbre en si peu de temps que sa journée de travail finit en fin de matinée. Eriem rentre au village voir ses parents, ainsi que sa bien-aimée Mélie, la fille du sabotier. Le soir venu, au village, c'est la fête. Musique, danse, chansons, égaient le monde. Après la danse, Eriem et Mélie s'éloignent de la fête. Alors que les amoureux passent devant une grange, Eriem attire sa douce à l'intérieur. Il enveloppe Mélie de ses bras et l'embrasse dans le cou. Il lui parle ensuite de sa rencontre avec le vieillard. Hélas, dans la grange, ils ne sont pas seuls. Stevie, le chasseur, s'y trouve aussi. Caché derrière une botte de foin, ce dernier entend tout. Il est pris d'une jalousie sans nom. Le lendemain, alors qu'Eriem aide son père à la charrue, Stevie leur rend visite. « Venez donc vous régaler tout à l'heure. Mère a préparé un bon pâté. » Un peu plus tard, pendant que sa mère prépare le repas, Stevie glisse en douce des fraises écrasées dans la salade de tomates. À midi, Eriem et ses parents arrivent. À table, tout le monde se régale. Les tomates sont particulièrement appréciées et Eriem en reprend plusieurs fois. De retour chez eux, les parents et le fils se sont assis sur le banc de pierre devant leur maison et profitent des derniers rayons du soleil. Le fils est agité et les parents s'en aperçoivent. « Qu'as-tu donc à te gratter comme ça, Eriem ? Ne vois-tu pas que tu saignes ?» Eriem enlève aussitôt sa chemise tachée de sang. Son corps est couvert de cloques et à certains endroits de plaies. La mère pousse un cri et court à la cuisine chercher de quoi panser les blessures de son fils. Le père est allé au puits et revient avec un seau d'eau rempli à ras-bord. Eriem gémit de douleur. « Tu as été empoisonné, mon fils, » lui dit sa mère. « Quelque chose que tu as mangé ne te va pas du tout. » La viande, les tomates, les champignons, je ne sais pas, mais pour sûr, tu as du poison là-dedans. Le corps habillé de bandages, le jeune homme se lève avec peine. Son père l'accompagne jusqu'au lit et l'aide à retirer le reste de son habit. Soudain, un bruit. Un objet vient de tomber et roule au sol. Le père l'a vu et le ramasse. Une fiole. Il fronce les sourcils et interroge son fils du regard. Eriem balbutie quelques mots que son père ne comprend pas. « Ne me dis rien, mon fils, ce n'est pas le moment. Repose-toi. » Les yeux remplis de larmes, le jeune homme, par un mouvement de la tête, montre sa reconnaissance à son père. « Mon fils, tu vas t'en sortir. Je te connais bien, tu sais. Tu as toujours su surmonter les épreuves de la vie. Sers-toi de cette force qui est en toi et tu seras guéri plus vite que tu ne le crois. Ta mère te prépare des cataplasmes qui vont soulager tes blessures. Mais c'est toi et toi seul qui prends la décision de guérir. Comme je l'ai toujours dit, quand on veut... On peut.
Yeni gamba na chomo. Yogi gamba na ruimo. Nuna na ngolo mpombo. Ogwana ezombole jobo na kaokuihome. Ndoke mena luana gabere yena, gabere jogo, gabere kamba. Banda bakuto na maladalite. Maladalite.
Maladalite. Maladalite. Maladalite. Maladalite, quoi à
Tengue,
alors
Alors, je vais vous raconter une histoire que j'aurais bien aimé entendre lorsque j'étais adolescente. La jeune fille a la bouche toute ronde. Il était une fillette nommée Courtelette, à qui ses parents ne parlaient jamais. Ils étaient occupés à toutes ces choses de la plus haute importance, comme faire des steaks frites, aller au boulot, vidanger l'auto, choisir des marchandises dans les rayons du supermarché, etc. Dès qu'elle ouvrait sa jolie bouche pour émettre un son, réclamer de l'attention ou laisser fuser sa joie d'être née en si bonne compagnie, on enfonçait entre ses lèvres biberon, tétine, boudoir, quignon de pain, bonbon, barre chocolatée, tout ce qui correspondait à peu près au gabarit de l'ouverture. Courtelette ne parlait pas, mais susautait et mâchouillait plus qu'il n'était souhaitable. Elle était comme ces nourrissons de celluloïdes, vintage, vendus avec leur biberon magique, lequel s'emboîtait si bien dans le petit trou de la bouche qu'on pouvait l'y oublier. Ne pas grandir est le concept même du poupon, ce qui n'était pas le cas de Courtelette. Elle grandissait. Ses yeux de curiosité devinrent immenses. Ses oreilles à se tendre de longues se dressèrent de trop. À l'école, Courtelette s'ennuyait. Et lorsqu'à la maison, elle ouvrait son bec pour des questions existentielles, ses parents, persuadés que l'enfant à tout propos croit savoir, veut dire et se trompe, la réduisaient au silence. Ainsi, nul ne l'avertit du monde, des relations entre les gens, des choix parfois délicats qu'elle serait amenée à faire, du oui, du non, du peut-être, du plus tard, et des mille façons de faire valoir son libre arbitre. Aussi sa bouche resta-t-elle minuscule, s'arrondissant sur la formulation de quelque chose qui se taisait. Cette bouche béante agaçait tant qu'il n'était pas un seul autour d'elle qui ne mourait d'envie de la lui faire fermer. Point sotte, elle sentait bien que quelque chose n'allait pas, mais ne trouvant aucune oreille disponible, elle n'en parla pas. À l'adolescence, ses sens s'éveillèrent et se posa la question de l'amour. Un deuxième cœur se mettait parfois à battre au cœur du ventre de Courtelette. De cela aussi, elle n'en parla pas. Elle s'en tint au livre, hélas, une édition de romans addictifs, aux couvertures éloquentes, qui lui dit des rapports homme-femme tout ce qu'elle brûlait de savoir. Selon les Écritures, la femme sujette à convoitise devait d'abord être contrainte, puis si bien fusionnée sous l'homme qu'il ne voudrait plus jamais s'en défaire. Ainsi comblée, elle pourrait s'épanouir ensuite dans la maternité. Émue d'avance, Courtelette revenait sur les descriptions torrides où la femme domptée et initiée par l'alpha beau d'expérience et de vigueur finissait par s'abandonner avec délice à celui qui savait, mieux que tous et mieux qu'elle-même, la conduire sur le chemin harmonieux de l'amour. Tous les autres échanges entre deux êtres s'effaçaient derrière l'incandescence des corps. Dans 9 semaines et demie, si Kim s'était attaché l'insaisissable Mickey, il serait encore avec elle. C'était bien la preuve. Vint le temps où Courtelette chercha la compagnie de son âge et des garçons. Elle soigna son apparence et pour occuper cette bouche qui risquait de s'ouvrir à son insu, elle y planta une cigarette. C'est à cette époque, bien avant ses 16 ans, qu'elle surprit le regard lourd des hommes sur sa silhouette, regard qui insistait sur la ronde cheminée enfumée de sa bouche rose. Il se trouva là un monsieur ténébreux qui se pencha à son oreille. « Elle avait, lui dit-il, une bouche gourmande qu'il lui fourrerait bien. » Innocente, elle rougit d'émotion, ne sut que dire, et ses lèvres s'arrondirent de stupéfaction. L'homme s'en excita davantage, l'attira dans un coin, lui ôta sa cigarette et fit rapidement refluer au fond de la jolie gorge et l'émotion et le saisissement. Et comme la seule fonction du destin est de s'acharner, la suite fut du même ordinaire. Selon les mots de la littérature, il la plia sous lui, la fit sienne, et l'entreposa dans son deux pièces. Elle pensa avoir trouvé l'alpha qui allait combler sa vie de femme, et s'habilla du nouveau patronyme. Tous les jours que Dieu fit, elle se contorsionna pour mieux attiser le désir de son homme, lequel devait en retour lui donner l'exclusivité de ses attentions. Cet ensemble constituant l'amour. Mais de cet amour, elle n'en sentit pas les effets. Elle voulut en parler, il pressentit le malaise, coupa court en lui mettant son poing dans la gueule et la consola en lui fourrant une de ses extrémités dans le gosier. L'ordinaire, on le sait, est une suite. À 20 ans, les yeux de Courtelette avaient perdu leur éclat. À 25, les coins de sa bouche tombaient. Quant à ses oreilles, elles s'allongeaient tristement sous le poids des insultes quotidiennes. Un jour de grand courage, Courtelette quitta ce pointeur sans âme. Elle se retira en bordure d'une forêt impénétrable, prit le temps de couper son bois, et le froid venu, jeta dans son premier feu tous les livres qui l'avaient trompée. Des années passèrent. Le jour de son 30e anniversaire, elle mit du soin à sa toilette, se peigna et se regarda dans la glace. Elle s'y vit, mais point seule. Devant elle, une femme aux épaules basses et aux grands yeux tristes la regardait. Sur son front, l'oiseau que forment les deux sourcils avait mis ses ailes en berne. À ses pieds, une cage vide faisait entendre un volettement fébrile d'oiseaux piégés. Comme dans un rêve, Courtelette passa la main à travers le miroir et ouvrit la cage. Aussitôt, 1000 oiseaux invisibles semblèrent s'en échapper. Les battements d'ailes étaient effrayants à entendre. Il en sortait des tapages de non-dits, des colères ravalées, des questions jamais formulées, des torrents de pensées gardées pour soi. Cela dura et cela s'apaisa. Mais quand cela fut fini, la femme triste s'était redressée et affichait sur son visage un éclat nouveau. Les ailes des sourcils menées par la fière saillie du nez s'étaient relevées et dans un dernier froissement d'ailes, le bel oiseau du front avait pris son envol, emportant avec lui et la femme et la cage. Courtelette, en ramassant au sol une minuscule plume échappée, eut l'idée de ce conte. Sur le sujet des bouches rondes que beaucoup ont voulu et veulent encore museler, obstruer ou occuper, ce qui revient au même, elle avait beaucoup à dire. Au royaume de la parole, il y aurait toujours quelqu'un pour écouter.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désir.
I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Sorry for my mistakes. I am taking.